Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Nadir Amaoui, bonjour.
Bonjour Christophe.
Et bienvenue à une voix féminine si nécessaire dans cette émission par trop masculine. Marie-Caroline Morel, bonjour.
Bonjour Christophe.
Alors dans le déluge de prose de ce dîner de tête, André Vito se définit en un alexandrin. Non, je n'ai pas grandi, je hais encore les hommes. Qui est ce misanthrope? C'est ce Vito, ce pauvre Vito, signé Jean Anouilh, que vous incarnez Maxime d'Abbeville. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous l'incarnez au Théâtre Héberto avec une distribution extraordinaire dans laquelle vous faites partie. Adrien Melin, bonjour.
Bonjour.
Vous jouez Maxime qui va jouer Saint-Just et vous jouez Vito qui va jouer Robespierre. Nous sommes en 1955 à Clermont-Ferrand. Ce sont six bourgeois qui ont décidé d'organiser un dîner de cons, c'est-à-dire de se faire la tête du nouveau procureur qui s'appelle André Vito, ce qu'ils connaissent très bien parce qu'ils étaient tous dans le même collège de jésuites. Et finalement, cet André Vito est sectaire, terrible. Il a fait fusiller un aussi ancien, au nom de l'épuration. La mise en scène de soignée et élégante de Thierry Harcourt nous projette dans un théâtre désaffecté qui va devenir un garage. Nous sommes au théâtre, comme Anouilh aime le rappeler dans ses pièces. Dans le texte original, nous sommes dans l'ancien prieuré des Carmes, et là, Maxime va jouer son Vatou. Et qu'importe, Maxime, pas d'Abbeville, mais Maxime joué par Adrien Melin, va jouer son Vatou, et qu'importe que ça devienne un garage, il en veut à ses aïeux. Alors Anouilh est marqué de Molière, comme vous le savez, et comme dans Tartuffe, on parle du dévot pendant tout un acte et qui se fait attendre, et bien là, nous attendons Bitos, en nous demandant s'il viendra vraiment, mais Bitos n'est pas Godot, et vous entrez, Maxime d'Abbeville, vous êtes au centre de l'attention. C'est une entrée magnifique pour vous.
Oui, c'est drôle que vous parliez de Tartuffe, parce que, enfin c'est une parenthèse que je fais, mais Anouilh effectivement était absolument fan de Molière, et notamment de Tartuffe, et il l'a monté Tartuffe.
Mais oui.
Et il y a beaucoup de références à Tartuffe dans la pièce. Et effectivement, il imagine une forme de nouveau Tartuffe, puisque comme Tartuffe, c'est un dévot de son époque, en ce sens...
Un dévot du droit.
Il ne représente non pas la religion catholique, comme le dévot du XVIIe, mais il représente la religion de l'humanité comme le dévot du XXe siècle, on va dire. Et voilà.
Donc il porte en lui
une pensée élevée et belle et bonne, et etc. Mais au nom de cette pensée, il commet les pires atrocités, un peu à la manière de Robespierre, d'où le fait qu'on lui demande de se mettre en Robespierre pour effectuer ce parallèle entre lui et son ancêtre, son terrible, pour faire son procès, en fait.
Alors, le rôle avait été créé par Michel Bouquet, dont vous avez été très proche, et vous êtes un peu le disciple. Il vous avait parlé de cette pièce.
Oui, alors, c'est pas Michel Bouquet qui m'a donné envie de le jouer. C'est que je l'ai travaillé en cours de théâtre, j'étais chez Jean-Laurent Cochet, et il m'a tout de suite donné ça à travailler.
Ouais.
Et j'avais... je connaissais pas, j'avais adoré. Et puis, et c'est vrai qu'après, il y a eu ce compagnonnage avec Michel Bouquet, et il en parlait beaucoup, il m'en parlait beaucoup. Il en a beaucoup parlé aussi à Francis Lombraille, parce que il faut savoir que Francis Lombraille est le directeur du Théâtre Héberto.
Qui joue Mirabeau.
C'est lui qui a voulu monter Vitos à Héberto. Et il faut savoir qu'il a acheté Héberto au départ pour jouer avec Michel Bouquet. Donc il a fait à tort ou à raison avec lui il y a une quinzaine d'années. Et Bouquet lui a tellement parlé de pauvre Vitos, il a toujours voulu le monter. Et voilà, et en fait, nos destins se sont rencontrés sur la pièce.
Alors, à vous voir, disciple de Bouquet, certes, mais aussi digne héritier de Robert Hirsch.
Oh.
Je croyais voir entrer Bouzin quand vous êtes arrivé sur la scène. Bien que Vitos soit sûr de lui, il comprend bien, finalement, le piège qui lui est tendu.
Est-ce qu'il comprend le piège qui lui est tendu ?
Vitos, assez vite.
C'est-à-dire que c'est un garçon très susceptible, très sensible. Donc il comprend quand même vite qu'on se moque de lui, oui. Et puis, de toute façon, dès qu'il arrive, il a un petit doute parce qu'il est le seul à être en costume. Or, c'est un dîner de tête.
Oui, ça, je voulais pas le dire.
Ah bon, il faut pas le dire.
Non, parce que la surprise est tellement bonne. Bon, donc il arrive. Alors, vous, Adrien Melin, vous êtes un peu le monsieur loyal, enfin, c'est-à-dire que vous organisez le dîner, vous présentez les uns aux autres, vous présentez les uns aux autres au public, et c'est vous qui tenez un peu toute la corrida.
Oui, c'est ça, c'est un peu le maître de cérémonie,
c'est ça.
Qui de manière très très mesquine et ultra perverse pose tous les jalons
pour, enfin voilà, avant l'arrivée de Bitos, et qui va galvaniser ses troupes et qui va un peu prendre pas seulement Bitos en otage, mais d'ailleurs aussi certains convives, en les empêchant de partir quand certains arrivent sans savoir exactement ce qui va se passer. Progressivement, on comprend que le piège se referme aussi sur eux.
Le pauvre Deschamps, oui.
Ouais, et donc il pose ses, il pose les jalons de sa stratégie, de ce gros piège là qui va se refermer sur Bitos, d'abord de manière assez ludique, et puis les choses vont se crisper. Il va être un peu malmené, humilié, gentiment ou plus méchamment violenté, puis finalement on va essayer de on va presque le mettre à mort. Enfin bon, ça c'est un petit peu plus loin dans la pièce, mais
qui est le plus salaud de vous deux?
Ah, je pense que le mien est une vraie raclure.
Non mais c'est ça le génie d'Anouilh, c'est que il y a plusieurs strates chez Anouilh. C'est-à-dire que dans le fond, sur la pensée, sur l'idéologie, etc., sa cible, la cible d'Anouilh, celui qu'il dénonce comme étant un Tartuffe, c'est Bitos. Mais il en fait la victime. D'ailleurs, il faisait une référence. Moi, je pense que quelque part, c'est comme s'il avait écrit la suite du Tartuffe, en quelque sorte. C'est-à-dire, il dit un moment, quelque part, il fait dire à un de ses personnages que ce qu'il adore, c'est le dernier acte du Tartuffe, quand il est enfin démasqué et humilié, etc. Et donc voilà, là, c'est-à-dire que c'est Tartuffe démasqué et humilié, c'est-à-dire que c'est la vengeance. Mais donc, qui dit vengeance dit humiliation, qui dit humiliation dit victime, et donc on a une forme de tendresse pour lui. Tandis que le bourreau de la soirée, le grand maître bourreau de la soirée, c'est Maxime. Donc concrètement, dans la pièce, le vrai salaud, c'est Maxime. Et voilà, mais c'est ça qui est malin chez Anouilh, c'est qu'il n'est pas manichéen, en fait.
Mais non, c'est...
Et en fait, il nous balade, et on est tout le temps... Le public est malmené parce que de temps en temps, il va avoir beaucoup d'affection pour ce pauvre Bitos. D'ailleurs, pauvre Bitos, c'est à deux tranchants. Ouais. Ça veut dire deux choses. Et de temps en temps, il va le haïr.
Absolument.
Le haïr.
Voilà. Alors, petits camarades prennent le relais. Donc, vous êtes dans ce dîner de tête. Chacun joue un personnage de la Révolution française. Anouilh se régale à mêler l'épuration, qu'il appelait la foire d'empoigne, et la terreur. Donc ça va faire le scandale que l'on sait au moment de la première. Il y a juste un échange entre Mirabeau et Robespierre. Mirabeau, où donc est la force selon vous, Robespierre? Chez les médiocres, monsieur, parce qu'ils sont le nombre. Mirabeau, je n'aime pas les médiocres. Robespierre, nous avons besoin d'eux. Ce que nous avons à faire ne se fera pas.
Ne
se fera que par eux. C'est terrible. Marie-Caroline Morel, vous avez des choses à nous dire sur la pièce?
Moi, ce que je pense en premier lieu, c'est que c'est pas forcément évident au départ, parce qu'on est en 2024 et on arrive dans les années 50 pour revenir à la Révolution française.
Alors ça, c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent ça à la sortie.
Et en fait, pour moi, enfin, j'ai 30 ans, donc pour moi, pour rentrer dedans et pour se remettre aux époques différentes, c'est pas forcément évident. Mais en fait, grâce à la mise en scène de Thierry Harcourt, qui est très fluide, qui fait des tableaux. Enfin, que je trouve extrêmement beau. On pense parfois à des tableaux de peinture. Enfin, je me suis vraiment sentie de l'art dans l'art, comme la mise en abîme des époques.
Et tu pensé à la scène de Léonard de Vinci.
Peut-être pas jusque-là. Mais et je trouve que cette mise en scène, qui est très belle, très épurée et très poétique, et le jeu extraordinaire des comédiens et des comédiennes.
Ils sont forts, mais.
Vraiment, pour tenir ces. Pour tenir Anouilh, je pense qu'il faut une troupe véritablement, excellente.
Allez, on y va tous. Maxime Daboville, Adèle Gemaille, Francis Lombraille, Adrien Melin, Étienne Ménard, Adina Cartianou, Clara Huet, magnifique dans Marie-Antoinette, évidemment, et Sybille Montagne. Vous êtes tous parfaits. Et ce que vous dites très justement, Marie-Caroline Morel, c'est qu'on a l'impression d'avoir affaire à une troupe. Vous n'êtes pas des individuels. Voilà, c'est vraiment une troupe, enfin, et on sent que vous vous amusez.
On est tous autour de la table, c'est un vrai truc collectif. De toute façon, c'est quelque chose qui se construit tous ensemble. Normalement, on est beaucoup plus nombreux en plus, hein, à la base, dans la pièce.
La pièce dure 3 heures. Ici, elle dure 1h15, 1h30. C'est vous deux qui avez fait les coupes. Comment ça s'est passé?
Tout à fait. En fait, Adrien a commencé. On avait tous les deux très envie de jouer cette pièce depuis longtemps. On jouait pas ensemble, et puis on y rêvait un peu chacun de son côté.
Vous avez joué ensemble.
On a joué beaucoup ensemble.
Oui, vous avez joué pas mal de pièces ensemble.
C'est notre quatrième spectacle.
Ben oui.
Et voilà, et Adrien, c'est un moment, s'est amusé. Enfin bon, il veut le dire mieux que moi, mais enfin, il s'est amusé à commencer à adapter la pièce pour la réduire, réduire le nombre de personnages, regrouper les personnages. Et puis à ce moment-là, Francis Lombraille m'a parlé de son projet. J'ai dit, ah mais ça tombe bien, il y a Adrien qui est en train de faire l'adaptation. Et donc Adrien m'a envoyé le texte, et puis j'ai retravaillé dessus, on a échangé, tout ça, voilà. Et c'est vrai qu'il fallait resserrer considérablement, mais d'abord, pour des raisons économiques, parce qu'aujourd'hui dans le théâtre privé, on ne peut pas avoir 13 acteurs sur scène, c'est impossible, on ne peut pas monter une pièce avec 13 acteurs sur scène, et puis on ne peut pas monter une pièce qui dure 3 heures, c'est impossible aussi, parce que le public aujourd'hui ne l'accepte plus. Donc il fallait resserrer considérablement, voilà. La pièce d'origine, pour aujourd'hui, est quand même trop lourde, trop verbeuse, il y a des...
Très dense.
Et il fallait aller à quelque chose de plus nerveux. Donc on a cherché aussi, non seulement à couper, à resserrer, mais à redonner du rythme, en gardant des périodes. Il y a des monologues qui sont extraordinaires, qu'il fallait conserver comme ça, parce qu'il y a aussi une poésie chez Anouilh qui est très forte, il fallait surtout pas l'escamoter, mais il fallait redonner de la modernité, entre guillemets, enfin une adéquation au public actuel, voilà.
Et puis c'est un concerto grosso, c'est-à-dire qu'on a les personnages qui vont avoir chacun leur moment de soliste, et ensuite qui reviennent dans le thème commun.
Tout à fait.
Et donc ça, il fallait le préserver, et vous l'avez préservé.
On l'a préservé. Moi, ce qui m'intéressait dans la pièce, quand je l'ai découverte, c'était vraiment ce dîner. En fait, c'est l'acte 1 et l'acte 3. Parce qu'il faut savoir qu'au centre du dîner, il y a un moment où on rentre vraiment dans la Révolution, dans le rêve de Bitos qui s'est évanoui, qui devient Robespierre, et on change un peu de registre. Et cette partie-là était extrêmement dense, très longue. Et c'est surtout là-dedans qu'on a énormément coupé. Oui. On a enlevé des scènes qui, pour certains, malheureusement, on en est désolé, étaient essentielles. Mais voilà, j'ai essayé de faire en sorte que le dîner puisse exister avec 3 invités en moins. On a enlevé Monsieur et Madame Tallien, on a enlevé le gendarme Merdac et l'invité de dernière minute, finalement, tous ces personnages sont là, mais ils sont joués par d'autres personnages qui sont déjà là.
On sent que vous avez gardé la ligne dramaturgique et qu'elle est devenue très énervée. C'est-à-dire qu'on est dans l'électricité du début jusqu'à la fin dans la pièce.
Ouais.
C'était ce que vous vouliez.
C'est une lessiveuse, ouais absolument.
Nadia Maoui.
Oui, c'est la deuxième pièce d'Anouilh que je découvre ces derniers temps. La première, c'était il y a longtemps, c'était Colombe. L'année dernière, on avait vu ensemble Eurydice. Et là, Pauvre Bitos, j'en avais tellement entendu parler. J'ai dit, mais déjà rien que le titre, je trouvais ça bizarre. Pauvre Bitos, je savais pas de quoi ça parlait. Ça faisait rire, j'ai dit, bon.
Ils sont mignons, hein.
Oui, bah oui, mais j'ai.
On sent qu'éducation nationale n'est pas le seul.
Ils sont pas les seuls.
Mais oui, voilà, on n'est pas les seuls.
On sent qu'éducation nationale est passée par là.
Et après, j'ai vu.
L'épuration.
Voilà.
L'épuration nationale.
Mais je suis plus vieux que vous le pensez, Christophe. Et après, quand j'ai vu la distribution, et le metteur en scène et la distribution, j'ai dit, mais. Punaise, je pense que c'est un spectacle à ne pas rater.
Oui, parce que vous avez dit, je les connais tous, donc je vais aller les
quasiment,
voir.
Les seules personnes que je ne connaissais pas dans la distribution, c'était Adèle Genaï et Clara Huet. Les autres, je les connaissais.
Ah bah pourtant, c'est quand même...
Voilà. Je ne les connaissais pas. J'avais eu le plaisir de voir, d'admirer, je peux le dire, je ne cache pas, Maxime dans Chaplin, dans lequel je vois Adrien également. Étienne Ménard, j'avais vu dans Naïs. Sibylle, dans une adaptation de La Folle de Chaplin. Donc, en fait, je connais et Francis Lombraille dans plusieurs des pièces au studio Héberto. Donc, ça donnait que envie de voir cette pièce, cette distribution-là. Et lorsqu'on y a été, avec Marie-Caroline, moi, j'ai été stupéfait dès le départ par le décor, parce que le décor est vide. On est vraiment dans le théâtre même, complètement vide. C'est très intéressant.
De placer cette pièce dans un théâtre et non pas dans le cloître. Hein, c'est une bonne idée parce qu'on sent que le théâtre, on s'en fout.
Bah, c'est du théâtre dans le théâtre.
Absolument. Et ça, c'est très Anouilh.
Ouais, absolument.
Ils arrivent dans un lieu désert et finalement, on peut utiliser la cage de scène vide. C'est vrai que c'est merveilleux.
Ça, c'est merveilleux.
Ah, oui, ça, c'est vraiment excellent. Et en fait, il n'y a rien sur scène. Il y a une table, il y a le dîner, mais tout est... En fait, tout, il y a que les mots qui sont vraiment intéressants.
Et les perruques.
Et les perruques. Oh non, le non, costume, attends. Les perruques, le costume.
Non, mais attendez, attendez. Le costume. Attends, attendez. Adrien, lève la nappe, parce qu'on voit en effet que tout est nappé comme ça.
Voilà, oui.
Il lève la nappe comme un torero qui lance la corrida, il lance le truc. Et là, on voit tous les couverts qui sont là, impeccables, oui. L'argenterie là, la cristallerie est là. Mmh. Et ça y est, ça démarre. Mais c'est lui le chef d'orchestre. Et quand
ah, mais
il
c'est
lance
le maître
le
du
truc,
jeu, bien
c'est
sûr.
Formidable. Et moi, je dis, quelle maestria. Et ça y est, c'est parti. C'est mieux que les trois coups.
Oui, c'est mieux que les trois coups.
Alors, il arrive parfois qu'on renverse toute la table en...
Et on n'est pas toujours là. Zut, alors, on aurait bien voulu voir que la table...
Et en même temps, malgré ça, il y a un rythme qui est vraiment là, mais qui n'est pas précipité du tout, à travers cette mise en scène justement de Thierry Harcourt, où justement, chaque moment, Maxime parlait des monologues et des tirades, etc., qui sont bien installés et qui permettent, malgré tout, de pouvoir rentrer dans ces époques, dans ces deux différentes périodes.
Et de respirer.
Et de respirer, d'écouter le texte, à la beauté d'Anouilh, et de savourer aussi le jeu des comédiens et comédiennes.
Et il y a un autre personnage dont on n'a pas encore parlé, que donc on dit que c'est le personnage d'Adrien qui est le maître du jeu et qui est une véritable ordure, mais au fur et à mesure de la pièce, il y en a un qui devient encore plus monstrueux que les autres.
Ah oui.
C'est le personnage de Julien
qui joue Danton,
Étienne Ménard, magnifiquement interprété par Étienne Ménard. Ce qui m'a fait sourire, parce que Étienne Ménard qui a écrit une pièce sur Danton, le voir jouer un personnage qui joue Danton. Et qui devient vraiment plus horrible. Mais en fait, à un moment, je me suis dit, mais votre personnage est complètement dépassé. Il a trouvé pire que lui. Voilà, la créature le dépasse.
Exactement.
C'est son Frankenstein. Ah, ouais, c'est exactement
et c'est juste extraordinaire. Et même les deux femmes, donc Marie-Antoinette et Lucille Desmoulins, Sibylle et Clara sont absolument magnifiques. Francis Lombraille, lui, c'est un peu le. Lui, c'est. Il temporise un petit peu par rapport à son personnage.
Francis Lombraille. Il joue donc Vulturne, qui joue Mirabeau, c'est vraiment la voix d'Anouilh. Ah. Enfin, politiquement, dans la pensée. Mmh. Dans la pensée, c'est-à-dire...
Un peu le vieux sage.
C'est l'apologie de la modération, et c'est surtout celui qui pointe les vices fondamentaux idéologiques de Bito, c'est-à-dire la violence au nom de la vertu. C'est vraiment lui qui va mettre le doigt là-dessus. Et c'est le problème philosophique de la pièce qui est traité quand même et qui est très fort et qui rejoint à la fois l'épuration et la terreur de 93. C'est ce même problème qu'on a pu voir en Union soviétique aussi, etc. Mais qui est sous-jacent, je dirais, le problème moral, la question de philosophie politique sous-jacente à la pièce qui est passionnante. Quoi.
On va entendre quelques minutes de plateau.
Un dîner de tête, ça ne se fait plus, ça va être sinistre.
Mais j'y compte bien. Naturellement persuadé Pitos de se faire la tête de Robespierre et la course comporte une mise à mort.
Je ne peux pas me prêter au jeu de ce soir, ce serait trop cruel.
D'abord, on n'est jamais trop cruel avec les imbéciles.
Bon, après tout, ce n'est qu'une farce et Pitos est un homme médiocre et je crois que Dieu pardonnera à tout le monde, sauf aux médiocres.
Je suis ravi de l'occasion que vous me donnez de redire à André Pitos ce que je pense de lui sous le masque de Camille.
Le jeu commence.
Un sale petit pisse-froid.
Non, excusez, il me semble que vous dépassez la mesure maintenant, mon cher.
Depuis la guerre, j'ai renoncé à être délicat.
Je vous trouve répugnant.
Monsieur, retirez le mot.
Trop tard.
Il s'est envolé. Arrête ! Arrête ! Repose-moi par terre !
Vous n'avez jamais aidé un ami, monsieur ?
Jamais !
Enfin, un cri du cœur !
Laissez-moi parler maintenant ! Tout le monde me repousse, toujours ! Et moi, je suis beau. Je fais pas de mal à une mouche, hein! Et vous croyez que c'est drôle au petit matin d'être obligé d'aller voir mourir quelqu'un qu'on connaît? C'est horrible! J'ai failli vomir mon café au lait!
Pauvre Bitos.
Pauvre Bitos, c'est au théâtre Héberteau actuellement. N'hésitez surtout pas tout de suite à prendre votre téléphone pour réserver parce que ça va être très très vite à guichet fermé. C'est au 01 43 87 23 23. 01 43 87 23 23 au théâtre Héberteau. Vous voulez rajouter quelque chose?
Oui, Maxime parlait tout à l'heure de la justice qui, enfin, la vertu qui se cachait sous le couvert de la justice. Et en fait, c'est là c'est vraiment au fur et à mesure de la pièce qu'on voit qu'il y a énormément de points communs entre ce Bitos et Robespierre, parce que quand on connaît absolument rien à l'histoire, et je dis ouvertement c'était mon cas, on découvre plein de choses et on se dit mais pourquoi tel personnage s'est fait la tête de l'un et de l'autre. Et quand on voit ce deuxième acte après l'évanouissement de Bitos, on se dit mais en fait c'est oui, on a l'impression de revoir ces mêmes personnages, donc de la Révolution, presque ouais plusieurs siècles après.
Mais bien sûr, c'est ça. Il y a une parenté entre voilà. les personnages, enfin entre les comédiens, j'irais, et leur personnage. Mmh. C'est ça aussi l'idée de la pièce. Il n'y a pas une scission.
Oui.
Ce sont les mêmes en fait. Et en fait, Anou, il veut montrer qu'à travers les époques, des types d'hommes resurgissent, toujours les mêmes, et que la nature humaine est toujours la même avec ses différents types. Mmh. Voilà. Et surtout, je voulais quand même ajouter, on l'a un peu entendu là, mais c'est ça qui est très fort chez Anouilh, c'est qu'il traite de sujets très durs. En l'occurrence, c'est deux périodes très noires de l'histoire de France, mais beaucoup d'humour. Et en tout ça, c'est un parent de Molière.
Bien sûr.
On pense que Molière, c'est gentil, c'est guimauve et tout ça, parce qu'on est trop habitué. Mmh. Mais Molière, c'est d'une noirceur absolue. Et en ça, voilà, il rejoint vraiment Molière. Il était aussi fan de Feydeau, d'ailleurs. Et on a du Feydeau.
On a du Feydeau.
Quand il crache son pantalon, voilà. etc. Voilà.
C'est ne te promène pas toute nue.
Voilà, mais bien sûr. Mais c'est ça qui est extraordinaire. C'est
qu'il montre ses fesses quasiment.
Il lance l'humour dans les pires moments.
Ouais.
Et du coup, il nous déstabilise en fait. Et voilà. Et en ça, c'est un grand auteur, quoi.
Alors, vous avez déjà et l'un et l'autre travaillé avec Thierry Harcourt, le metteur en scène.
Dans la même pièce, The Servant.
Voilà. qui vous a valu un Molière. Ça fait combien de Molière, Maxime Daboville?
The Servant, c'était le premier.
J'en ai eu deux.
Vous en avez eu deux. Donc, on sait que j'avais 203.
C'est les enfants qui seraient contents parce qu'ils se battent pour les. J'aurais déjà filé, mais comme j'en ai trois enfants, il faudrait vraiment que j'ai un troisième.
Bon, alors. On va prendre des mères pour les enfants de Maxime, s'il vous plaît. Au moins qu'ils repartent avec un, pour que tout le monde soit à égalité à la maison.
Voilà. Alors, chez Adrien Mélin, il y a des poupées Barbie. Chez les Daboville, il y a des Molières.
C'est tout ce que je mérite.
Et alors, comment ça s'est passé avec Thierry Harcourt? Parce que vous le connaissez bien. Quand il a repris le texte « Pauvre Bitos » et que vous avez travaillé avec lui, ça a été très très fluide tout de suite.
Bah, Thierry, c'est quelqu'un de merveilleux. Il travaille dans la bonne humeur. Il est toujours très positif et ça se fait avec une simplicité remarquable.
Et une grande élégance.
Grande élégance. Il a, d'un point de vue esthétique, le spectacle est remarquable. Il nous dirige magnifiquement bien. C'est un homme exquis et franchement, c'est.
Les lumières,
j'espère que c'est pas la dernière fois. C'est un metteur en scène qui est dans le respect du texte, toujours très à l'écoute et qui dirige par petites touches. Mmh. Il s'inscrit pas du tout dans la tradition française castratrice, qui existe quand même beaucoup.
Hélas.
Oui, et qui est pas du tout comme ça en Angleterre. Et je pense qu'il a été influencé par ses 25 ans de travail en Angleterre, ça j'en suis convaincu.
Ouais.
Parce qu'il y a vraiment, il y a quand même en France, une culture de la puissance du metteur en scène qui est parfois très intéressante, mais il faut faire attention en fait parce qu'il faut jamais castrer les acteurs et Thierry Harcourt pour ça il est très fort. Voilà, on a une petite pensée, on le dit, parce que pour Arnaud Denis qui au départ devait faire la mise en scène, et c'est vrai que voilà, ça a été assez douloureux parce que Arnaud voulait beaucoup monter la pièce, Francis Lombrail lui avait confié et il a eu un problème de santé. Quand même aujourd'hui c'est quelqu'un qui a, il lui arrive des choses qui sont difficiles, et donc on a une petite pensée pour Arnaud Denis. Voilà.
Évidemment, et il a été un peu le déclencheur du projet vis-à-vis de Francis Lombrail, qui joue merveilleusement avec vous dans ce pauvre Bitos, et qui est aussi le patron du théâtre Héberto. Adrien Melin, il faut tenir toute la pièce comme meneur de jeu, ça demande une énergie folle pour vous, et vous êtes toujours présent.
Oui, toujours présent. Et il est mon personnage. On voit très vite le côté machiavélique dès le début. C'est lui l'organisateur, donc comme je le disais. Mais après, il devient quand même relativement assez passif. Et d'ailleurs, c'est assez marrant d'imaginer que tous ces gens de la bonne société, qui sont tous des conservateurs, il y a des représentants du grand capital, ils ont tous des noms à particules.
Ce sont des gens qui vont bien.
Voilà, plutôt la droite.
Ce sont des gens qui vont bien.
La droite aisée. Voilà.
On peut aussi se demander ce qu'ils faisaient pendant la guerre. C'est sans doute des gens qui n'étaient pas du côté de la résistance. Et voilà. Et donc, il y a un truc avec ce personnage où il lance l'histoire et les invités sur un tremplin. Et après, il s'efface. Et après, il dit plus rien.
Mais il est très présent.
Il regarde sauter.
Très présent, bien sûr. Mais le personnage est toujours là, bien sûr. Mais il s'efface de temps en temps. Il réapparaît pour réajuster des trucs, pour temporiser, pour accélérer, pour appuyer là où ça fait mal, mais c'est...
La pièce est terriblement actuelle. Maxime Daboville, on peut vous voir aussi au cinéma. Vous incarnez un ministre de la Santé dans Vivant.
Oui,
Et j'avoue que de vous avoir vu, ça m'a bien amusé. Merci à vous deux, Maxime Daboville et Adrien Melin. Vous jouez Pauvre Biteau sous le dîner de tête de Jean Anouilh au Théâtre Héberto à 19h et les matinées le dimanche à 17h30. C'est un régal, c'est vraiment du vrai théâtre. Allez-y. Et si vous êtes près du téléphone, eh ben c'est le 01 43 87 23 23, les réservations du Théâtre Héberto. Merci à Cédric Coba pour la réalisation, François Dieudonné, Philippe Alpeche et Camille Meyer pour la réussite technique de notre rendez-vous. Merci infiniment Nadir Amaoui et Marie-Cécile. Marie-Caroline Morel, décidément. Lundi, nous nous retrouvons au musée Marmottan. Non, lundi, nous nous retrouverons, ah oui, avec Yo-Yo Ma, imaginez-vous. Donc ça va être formidable. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous, des autres, et je vous embrasse.